Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Porte. Un épisode un tout petit peu spécial parce que j'ai eu envie d'interviewer une personne qui interviewe les autres aussi. Et donc du coup j'ai demandé à Alice de me rejoindre à Sofa pour échanger un petit peu sur son expérience de podcast aussi. Elle interviewe des gens du web. Donc c'est les Gones, voilà pour ceux qui sont de Lyon, les Gones. Les go du web. Et c'est super, super intéressant de pouvoir échanger justement avec quelqu'un qui fait le même exercice que ce qu'on est en train de faire. Ça permet de voir justement les différences dans la manière de faire de chacun. Et puis après, on s'est mis à parler un peu plus d'Alice, un petit peu plus de ce qu'elle aimait, de ses préoccupations du moment, de sa manière de trouver l'information vu qu'elle travaille dans le web, de sa manière d'explorer justement des nouveaux sujets et des complexités pour explorer ces nouveaux sujets. Voilà, un échange simple d'une heure à peu près, 1 h 10. J'espère que vous passerez un bon moment. En tous les cas, avant de nous lancer dans cette conversation, je vous invite, comme à chaque fois, si vous écoutez sur iTunes ou sur les autres supports, à aller mettre des petites étoiles, si possible les 5 étoiles, parce que, ben, comme pour tout dans notre monde maintenant, si on veut arriver à partager des choses à beaucoup de monde, sans penser à la quantité, mais plus en se disant que tout le monde puisse accéder à ce qu'on peut partager, eh ben, il faut pouvoir remonter dans des différents classements et algorithmes. Donc voilà. Donc si vous voulez me donner un petit coup de main pour qu'il y ait des gens qui puissent peut-être écouter Alice, eh ben voilà, vous pouvez mettre des petites étoiles. Sur ce, je vous laisse directement avec cette conversation. Un très bon moment, encore une fois, vraiment super. Et n'hésitez pas surtout à me contacter si vous voulez aussi faire l'exercice, échanger vos sujets de curiosité ou proposer des personnes que vous avez un petit peu envie de voir ce qui se passe dans leur tête. Voilà. Je laisse la place à la conversation et puis à très bientôt. Merci de votre écoute. Bonjour Alice et bienvenue dans ce nouveau podcast de Nouvelle Porte. Je vais te laisser te présenter,
Ok.
mais juste avant, je voulais rajouter un petit mot par rapport à ce podcast un peu spécial. C'est qu'il y avait derrière l'idée que on parle un petit peu aussi du podcast en lui-même. Donc du coup, c'est pour faire une
Inception.
petite mise en abîme. Voilà, c'est ça.
D'accord.
Parce que voilà, la seule chose que je dirais moi sur toi, c'est que tu as aussi un podcast de ton côté.
Tout à fait.
Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent qui peuvent être intéressés aussi par peut-être se lancer dans des podcasts. Et du coup,
Ouais.
si on leur apporte quelques billes sur nos manières de faire, ben, ça peut peut-être être intéressant. Voilà.
Carrément.
Mais on ne s'arrêtera pas là, bien sûr. Après, ça devient une discussion et puis on verra où ça part avec tes sujets de curiosité.
Ok,
Je te
ça me
laisse
va.
te présenter.
Alors, me présenter, je m'appelle Alice Bertrand, je suis consultante en marketing digital depuis 5 ans, en janvier, ça fera 5 ans, et en freelance, en indépendant. Je travaille avec beaucoup d'entreprises, des PME comme des grosses boîtes, et je fais toute leur communication web. Ça passe par les réseaux sociaux, les emailing, les sites web. Qu'est-ce que j'allais dire? La rédaction web, etc. Enfin, voilà, j'oublie des choses sûrement, mais je fais toute la communication web. Et depuis maintenant 6 mois, j'ai lancé mon podcast, Gone
Ok,
Digital.
d'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais comme métier du coup, et puis à le faire aussi de manière indépendante plutôt que travailler pour une...
Ben, j'ai déjà travaillé pour des agences et des entreprises et ça m'a pas ultra plu en fait. Enfin, ça m'a plu un certain temps et ensuite je me suis tournée vers l'indépendance parce que j'aime pas qu'on me mette dans une boîte. J'aime pas ça, avoir des horaires de 9h à 17h ou 9h à 18h et me dire tu restes dans le même endroit toute la journée, ça me plaît pas. J'ai vraiment besoin de gérer mon temps. Pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix, donc l'indépendance, c'était la voie royale pour moi, quoi.
Ok,
Voilà.
ben du coup c'est cool parce que là c'est 14h et on est
C'est
mercredi
ça,
et on
ouais.
peut se retrouver
Et
être posé
exactement.
à discuter pour un podcast.
Voilà, c'est
Donc
exactement
c'est
ça.
plutôt
Alors
agréable
que
de.
si j'étais indépendante, enfin, si j'étais en entreprise, je ne pourrais pas faire ça, et toi non plus d'ailleurs.
Ouais.
Donc c'est vraiment cool, je trouve.
Et tu arrives justement à t'organiser vraiment comme tu as envie? Ou
Oui.
est-ce que tu as quand même certaines contraintes qui te.
Ouais, il y a des contraintes clients, il y a des calls, il y a des réunions, des choses comme ça, mais sinon, la plupart du temps, franchement, j'arrive à bien m'organiser et à faire ce que je veux. J'arrive à faire du sport, à manger avec des amis, à partir peut-être en week-end parfois. C'est vraiment agréable. Après, ça vient avec des contraintes. L'indépendance, ça vient aussi avec le fait que ben, on ne sait pas toujours ce qui va tomber à la fin du mois, que parfois les clients ils nous lâchent sans préavis, sans voilà. Il n'y a pas trop de sécurité par rapport à un emploi en CDI ou en CDD, par exemple. Donc c'est assez différent.
Ça va, tu arrives à bien gérer justement cette dimension d'insécurité.
Ça va, j'aime bien la sécurité, j'aime bien le challenge en fait, donc ça me plaît bien d'être sur des montagnes russes, j'aime pas m'ennuyer et j'aime bien faire toujours des choses très différentes. Et mon boulot me permet de faire plein de choses différentes chaque jour et que chaque jour soit très, très différent. Je dis pas beaucoup différent, mais voilà.
Non, non, mais je comprends bien. Et quand tu parles de différent, justement, ça va peut-être aussi sur les types de projets que tu peux avoir avec, avec tes partenaires de travail. Oui. Ça va être vraiment tout type de secteur.
Ça va être tout type de secteur, sauf ceux qui ne correspondent pas à mes valeurs. Par exemple, on m'a déjà proposé des choses dans le domaine de la chasse ou de l'astrologie voyance. Et si j'y crois pas, si je ne suis pas dedans, je ne vais pas travailler pour le client. Il faut vraiment que j'ai quand même une petite appétence pour avoir... Je suis un peu la porte-parole en tant que community manager ou autre. Donc, il faut que j'ai une appétence pour le secteur et que je puisse communiquer de manière correcte. Donc, il faut que je sois... en accord avec les valeurs.
Et cette posture que tu as prise là par rapport à tes valeurs en étant un peu plus ferme,
ouais.
Est-ce que c'est venu d'une expérience justement un peu mauvaise que tu as eue par rapport à une collaboration ?
Ouais, j'ai eu quelques mauvaises expériences avec plusieurs clients, surtout au début, il y a 4 ans, 4-5 ans. J'étais hyper naïve, je baissais mes prix, il n'y avait pas de problème pour que le client me paye 3-4 mois plus tard, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que j'étais hyper naïve, du coup je laissais un peu les gens rouler sur moi. Et maintenant j'essaie d'être plus directrice sans être trop carrée, mais il faut aller être un peu carrée quand même, pour ne pas se faire marcher dessus. Donc ouais, j'ai eu des mauvaises expériences, mais après ce qui ne correspondait pas à mes valeurs, j'ai dit tout de suite non. Après, c'était plus au niveau de la mission elle-même ou comment le client me traitait que ça s'est mal passé parfois.
D'accord, ok. Voilà. Mais c'est vrai que ça doit être aussi bizarre quand tu te retrouves à écrire du contenu et qu'en même temps que tu es en train d'écrire, tu sens qu'il y a une dissonance par rapport à ce que tu peux penser. Ou...
Complètement. Des fois, il y a des trucs un peu trop commerciaux, où on se dit « là, je suis en train de vendre ça et j'y crois pas vraiment ». Et c'est à ce moment-là où il y a une espèce de remise en question, on se dit « est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je fais ça pour juste l'argent ? Est-ce que je fais ça parce que le client il est sympa ?» Mais il faut se poser plusieurs questions, je pense, en étant freelance. Est-ce qu'on est vraiment en accord avec le client ? Et sinon, c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est un travail d'adaptation tout le temps. Je pense qu'on évolue avec le temps, en fait.
Ouais. Ouais. Et est-ce que dans cette expérience-là, ça fait un peu pareil que... pas mal de gens que je rencontre qui me disent toujours ça, même moi je le vis, c'est que vu que tu vas peut-être dire non plein de fois, et au final ça t'ouvre des espèces d'espaces temporels.
Des nouvelles portes.
Dans lesquelles, des nouvelles portes, voilà. Mais des espaces dans lesquels tu vas faire peut-être d'autres rencontres, et vu que tu es plus aligné avec toi-même, du coup ça sera des projets plus alignés.
Complètement.
Et bizarrement, il y a tout qui finit par s'organiser au fur et à mesure, et en même temps... qui arrive à te rapporter l'argent qu'il faut aussi pour que tu puisses vivre, et ça devient beaucoup plus agréable, quoi.
C'est ça, c'est un peu les étoiles qui s'alignent, en fait. Ouais. Quand on commence à savoir qui on est, ce qu'on veut, et à dire non, c'est important de savoir dire non. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à faire ça, et c'est hyper important. C'est tellement important de savoir dire non, en fait, quand on le sent pas, quand on a l'instinct au début, on a toujours l'instinct au début qui nous dit « cette mission, je la sens pas », ou « ce client, je le sens pas ». Il faut l'écouter, cette petite voix, parce que après, en fait, on a raison, mais on le sait trop tard.
C'est ça qui est rigolo, c'est que des discours comme ça, en fait, moi, je les ai portés aussi avec beaucoup de vigueur, et puis tu en entends tout le temps sur l'importance de dire non, sur l'écouter, l'intuition, toutes ces choses-là. Mais on dirait que c'est des choses, oui, ça fait du bien quand on les entend, ça fait aussi du bien quand on le dit, pour rien qu'on rabâche ce truc-là, mais qu'au final, tu as l'impression que quand tu écoutes l'histoire de tout le monde, tu as quand même ce besoin de passer par l'expérience, en fait, pour vraiment y croire.
Ouais. C'est vrai. Je pense qu'il faut passer par faire des erreurs, il faut se casser la gueule plusieurs fois pour arriver à vraiment l'intégrer, de savoir dire non. Je pense que c'est tout un cheminement. Moi, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais fait « oui, mais en fait, j'ai besoin d'argent, donc je m'en fous de dire non, là.
Ouais. » Toi, tu peux te permettre de dire ça, parce que du coup, toi, ça va bien. Oui, mais du coup, si moi, ça va bien, c'est oui, parce que justement, je fais ça. Oui, mais quand même, parce que… Et voilà, c'est ça. C'est bien, tu restes un peu dans les…
Le serpent qui se mord la queue.
C'est ça.
Exactement.
Et tout à l'heure, tu disais que toi, tu aimais bien le challenge. Et donc, lié à l'erreur.
Ouais.
Est-ce que ça va bien ensemble, justement ?
Oui.
Est-ce que toi, quand tu dis « je cherche un challenge », forcément, ça veut dire que peut-être tu cherches volontairement l'erreur aussi et,
Complètement. Là, j'ai un exemple très récent. La semaine dernière, on m'a proposé dans une entreprise de venir et d'interviewer les gens et de les prendre en photo, en fait, pour faire le portrait d'une team, en fait, sur les réseaux sociaux et sur le site web qui va arriver. Et je n'ai jamais pris en photo professionnellement des gens.
Okay.
Donc, on m'a demandé de faire des portraits photos pour des personnes d'une équipe, d'une agence, pour les mettre sur le site web. Et j'ai jamais fait ça. Je me suis dit, soit je dis non et je laisse partir une opportunité, soit je dis oui et je risque de me casser la gueule et de dire ces photos sont nulles. Voilà, tous les scénarios qu'on se met dans la tête. Mais en fait, c'est un challenge, donc je me mets volontairement en danger. Pas tout le temps, mais des fois, je me dis, allez, là, t'es pas à l'aise avec ça, tant pis, essaye, tu verras bien ce qui se passe. Donc je l'ai fait, ça s'est bien passé.
Et juste avant, tu es allé à Apple pour acheter le dernier iPhone qui prend des belles photos tout seul.
Non,
trop. Non, d'accord.
J'ai pas envie de laisser un rein, même si j'ai un iPhone. Là, j'ai un iPhone. Il est très très cher le dernier. Donc,
ouais, on est d'accord. Ouais. Et par contre, c'est vrai que c'est
mais il fait des photos de fou, ouais.
Ouais, c'est ça. Ça peut être un peu triché des fois. On peut se poser la question si
ouais,
c'est vraiment encore de la photo ou si.
Bah, tout le monde devient photographe, journaliste.
Voilà, tout le monde fait tout.
Tout le monde fait tout, ouais.
C'est ça.
Ouais, il faut savoir se démarquer de plus en plus, je trouve maintenant. Donc,
Et par rapport à ça, toi, comment tu te positionnes là-dessus, sur cette réflexion justement sur le
fait de se démarquer,
le fait que tout le monde fait tout, voilà.
Ouais.
Et donc toi, ta démarche pour te démarquer justement, c'est quoi que tu mets à me démarquer?
Me démarquer dans le sens où ça va être hyper hyper cliché, mais faut rester soi-même.
Voilà. On en revient sur l'intuition.
C'est bête, ouais. Mais voilà. Et en fait, pour se démarquer, le mieux c'est de suivre son propre cheminement et pas forcément essayer d'être hyper original, parce que quand on essaie trop, en général, ça fait faux. Du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de rester moi-même. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est de porter une réflexion sur le fait que mon métier ne sera pas forcément là dans 5 ans, ni même dans 3 ans, et que je vais forcément devoir me réinventer dans plusieurs années, dans plusieurs mois. Je ne vais pas forcément faire le même métier d'ici quelques années, ça c'est sûr. Enfin, s'il faut, les robots vont écrire un autre place sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais il va y avoir des changements qui font que je ne vais pas être la même. Et ça, c'est un travail aussi de l'indépendance, je trouve. Par rapport aux salariés, de se dire, bon, je dois tout le temps me remettre en question, tout le temps être en formation, tout le temps apprendre de nouvelles choses, pour pas être à la ramasse, quoi.
Ouais. Voilà. Et puis en plus, il n'y a plus personne pour te mettre dans une case précise.
Non, il n'y a plus personne pour te bouger.
Donc au final, si ta case, tu sais que... Voilà, c'est ça, plus personne pour bouger tes fesses aussi.
C'est ça.
Et vu que tu sais que ta case n'existe plus vraiment, clairement, et que puis elle est vouée à évoluer,
ouais.
Au final, la seule chose qui reste, c'est... C'est toi, en tant qu'Alice. Donc,
ouais, c'est Pierre Hamelot qui m'a dit, il y a quelques temps, quand je l'avais rencontré la première fois, qui m'a dit, en fait, les clients n'achètent pas ma prestation, ils m'achètent moi. Et cette phrase m'a marquée parce qu'en fait, c'est vrai, les clients, quand ils te rencontrent, quand ils t'ont au téléphone, etc., ils t'achètent toi, ils n'achètent pas la prestation, parce que la prestation, ils peuvent l'avoir avec quelqu'un d'autre qui peut mieux la faire pour moins cher, qui je ne sais rien. Mais ils t'achètent toi, ta personnalité, la façon dont tu fais le taf, la façon dont tu réponds. C'est en fait c'est ta personnalité qu'ils prennent, quoi.
En fait, ils achètent les gens achètent une relation,
ouais.
C'est marrant,
je suis très d'accord.
Du coup, si on pousse le truc au bout, c'est bizarre. Du coup, ça fait un peu comme bizarre. Forme d'escorte. C'est pas pour toi en perso, c'est pour ton projet, mais au final tu payes quelqu'un pour t'accompagner.
Non, c'est vrai, c'est un peu comme c'est les ressources humaines, quand des fois il y a des feelings, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je pense que il y a vraiment ça, quoi. Et des fois tu peux te tromper sur la personne. Moi, je me suis trompée sur des clients en pensant qu'ils étaient adorables et que ça allait super bien se passer. En fait, ils se sont révélés être des vrais tyrans dans la relation au travail, quoi. À m'appeler le week-end, à me demander de faire du boulot non-stop. Enfin, voilà.
Et là, le petit raté, il venait de quoi, tu penses? Est-ce que c'était... Est-ce que tu n'as pas écouté ton intuition, justement, qu'on parle depuis le début?
Et puis, je ne pense pas qu'il faut mettre toute la faute sur le client. Il y a ma faute aussi, c'est-à-dire que je ne correspondais sûrement pas à ce qu'il voulait, lui, qu'il a été aussi déçu par ce qu'il attendait, moi. Donc, c'est juste, voilà, il faut juste se mettre en bonne entente et se quitter en bon terme. Je pense que c'est important de communiquer beaucoup. De se dire, bah là, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que tu en penses. Et communiquer, c'est la clé partout, dans la vie, tout le temps, au boulot, dans les amitiés, les amours. La communication, c'est clé, quoi.
Ouais, ça. On est d'accord, au final, tout n'est que relation.
Tout n'est que relation.
Donc, pourquoi est-ce qu'on gérerait autrement les relations quand c'est financé ou quand c'est normal, quoi.
Complètement, ouais. Je suis d'accord.
C'est marrant d'ailleurs cette segmentation quand même, quand tu regardes, je sais que moi, en bossant avec pas mal de gens qui sont dans la logique de l'agilité ou en étant indépendant, tu es beaucoup plus dynamique en fait sur la relation que tu as avec les gens, c'est beaucoup plus fluide, donc du coup tu as tendance à le faire, mais quand tu reviens avec des entreprises, on parlera tout à l'heure après des gens que tu peux interviewer dans le web ou quoi que ce soit, si pour eux c'est pareil, mais dans leur vie privée, ça va être naturel de se dire, je tiens mon lien avec des amis en les appelant régulièrement. On s'envoie peut-être même encore des lettres écrites ou on va se faire des restos régulièrement. Puis si on ne s'est pas donné de nouvelles depuis une semaine, ça veut dire que ça va peut-être pas. Donc, toi, tout ça. Ouais. Et après, dans la relation pro, par contre, quand ça bosse sur un projet pendant un mois, il y a coupure complète. On ne se voit pas en physique, on se fait juste des appels en visio. Et cette distance humaine qui reste avec l'autre personne avec laquelle tu travailles. D'ailleurs, on a encore les termes client-prestataire qui sont là, qui mettent une distance aussi.
Complètement.
Du coup, c'est marrant que l'humain, segmente en fait
ces trucs-là. Alors que notre génération, je trouve, YZ, elle n'est pas trop dans la segmentation, justement. Tu vois bien que c'est éparpillé, en fait, qu'à 9h du matin, tu peux être pas dans ta vie perso, et à midi tu peux être pro, et etc. Et ça n'arrête pas de s'enchevêtrer comme ça. Et moi j'ai beaucoup de relations pro au début, qui maintenant c'est des potes quoi. Ouais. Donc je pense que ouais, faut raisonner en termes de relations et pas forcément de pro perso. Mais c'est une évolution du travail qui demande du temps. Je pense qu'il y a pas encore tout le monde qui pense comme ça, et c'est normal. Mais ouais, je pense qu'il faut.
On a un gros historique à se traîner encore un petit moment quoi.
C'est ça. Mais même je trouve que la relation, ça se c'est par petits détails que ça se s'entretient en fait. C'est par les petits mails sympas, les petits coups de téléphone quand tu t'y attends pas, ce genre de choses qui voilà, qui font que en fait la relation professionnelle elle devient vraiment solide.
Et puis comme tu dis les détails ouais sont importants. Moi ne serait-ce que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une personne qui me disait bon ben OK on part ensemble sur tel projet. Et donc là, il y avait encore un peu, vu que je ne le connais pas, il y a encore un peu cette distance, surtout que je l'ai vu qu'au téléphone. Et puis, il arrive un moment où il y a eu une petite accroche toute bête dans ce qu'il était en train d'expliquer, une sorte de petit quiproquo, on ne s'est pas compris, ce qui a fait qu'il s'est marré.
Ouais.
Et juste après cette petite accroche, ça a complètement changé, parce que vu qu'il avait lâché, qu'il avait rigolé sur un truc, que moi, j'avais rebondi de manière ouverte là-dessus, que j'avais même continué un peu à délirer dans le même sens. Là, on s'est mis à parler d'humain à humain, vraiment quoi.
D'accord.
Et du coup, la conversation s'est finie en mode bon, bah super cool, on va pouvoir attaquer à bosser et hop.
Tout de suite plus détendu.
Voilà, c'est ça. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ces petits crans qui sautent, comme si c'était des sortes de protections qui se mettaient parce qu'on se disait, ben voilà, on est partenaire professionnel, on n'est pas juste personne qui se rencontre humainement. Et c'est vrai que d'arriver à faire sauter ces petits verrous en disant à l'autre personne, mais t'inquiète pas, même si on bosse ensemble, on peut aussi. Juste bien s'entendre, pas besoin de mettre de la distance, ça donne beaucoup de confort derrière, je trouve.
Oui, c'est vrai. Et c'est aussi beaucoup de risques de s'ouvrir aux gens, enfin, de nous s'ouvrir aux gens, aux clients, et vice-versa. Je pense qu'il y a une distance parce que je pense que le chat est chaud, craint l'eau froide. Moi, je ne m'ouvre pas forcément aux clients en disant « Hey, viens dans mon univers » et pareil parce qu'ils ont été déçus par le passé. Donc, je pense que c'est ça aussi.
Ouais. Les mauvaises expériences à chaque fois, ça fait que tu mets un petit bouclier.
Moi, je suis pas aussi ultra extravertie, donc j'ai tendance à mettre de la distance, alors que je suis pas une fille forcément distante, mais c'est juste que je suis comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut porter à confusion des fois. Mais je suis d'accord avec toi.
Mais ça rejoint aussi quand tu parles d'introverti, extraverti. Je trouve que c'est intéressant. J'avais vu des études qui étaient passées comme quoi c'est des grosses études qu'il y a tout le temps, comme quoi les meilleurs managers ou les meilleurs chefs de projet c'était des gens qui étaient introvertis.
D'accord.
Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu es extraverti, moi je suis plutôt extraverti, tu as tendance au départ à pas faire gaffe. Tu te dis bon bah vu que pour moi tout est ouvert, tout est fluide, et ben avec les autres je peux y aller. Sauf que des fois quand il va trop, ben, l'autre personne elle va se fermer encore plus parce qu'elle se dit oula, autant d'ouverture d'un coup c'est bizarre,
c'est beaucoup. C'est
donc il faut que je ferme quoi. Et du coup je m'imagine que quand tu es plus introverti et que tu as plus cette conscience en fait des différentes couches à passer, tu as tendance à aussi plus respecter les différentes couches qu'il y a chez les autres.
Complètement, je pense aussi.
Donc c'est vrai que c'est important de...
J'ai une analogie pour les introvertis, extravertis. Après je pense pas qu'il y ait vraiment blanc-noir, mais je pense qu'il y a beaucoup de gris au milieu, mais pour moi, les extravertis, c'est des chiens et les introvertis, c'est des chats. Et en fait, les deux animaux sont super cool à vivre. Enfin, moi, j'adore les deux, mais c'est vraiment pas la même façon de voir les chiens. En général, ils sont super contents de te voir, ils sont très extravertis et ils respectent pas les barrières. Alors que les chats, ils sont contents de te voir, mais ils le disent pas forcément, ils sont plus silencieux. Donc, je pense que les chiens et les chats peuvent s'entendre, mais il faut juste... voir quelle différence ils ont et les respecter. Quoi.
Ah, c'est cool comme analogie.
Ouais, j'aime bien.
Du coup, ça simplifie un peu le modèle, mais c'est clairement ça. Quoi. C'est vrai que le chien, il a tendance à sauter dessus et à te baver directement sur la gueule. Du coup, tu vas avoir tendance à vouloir le repousser parce que non, tu vas trop loin. Donc, lui comprend.
Mais bon, il est cool.
C'est ça, il est cool. Mais lui, il finit par comprendre qu'il faut aller moins loin et toi, du coup, faire un peu attention parce que tu n'as pas envie de te faire baver dessus tout le temps.
Ouais, alors que le chat, il faut aller le chercher.
C'est ça. Le chat, il te frustre dans l'autre sens où tu dis, bah, en fait, il s'en fout de moi. Puis après, au final, tu finis par comprendre que non, peut-être pas.
C'est ça.
C'est vrai qu'avec les introvertis, ça peut être pareil des fois.
Ça peut être comme ça un peu,
Ils vont te regarder un peu de travers et tu vas dire, oulala, lui, il m'aime pas, ça passe pas. Non,
alors
en fait, c'est qu'il est un peu en train de te jauger, de voir commenter.
Ou alors qu'il pense à sa pizza du soir.
Ouais, c'est ça. Donc, il est, voilà, c'est ça, un peu plus rêveur, un peu plus...
Ouais,
c'est vraiment des énergies qui sont différentes et complémentaires, quoi.
C'est ça,
C'est important à valoriser aussi.
Je sais pas si tu connais le test du MBTI, mais... Je sais pas si
je crois que j'avais fait, ça te donne ton petit personnage.
Ouais, c'est ça, c'est ton petit type de personnalité, il y en a 16. Et en fait, dedans, il y a introverti, extraverti. C'est intéressant ce test.
Je suis inspirateur.
T'es inspirateur.
Ouais.
Ça m'étonne pas.
Toi, t'es quoi?
Je suis architecte.
Architecte.
Ouais, c'est assez rare chez les femmes, parce que c'est un profil très un peu cartésien, un peu comment dire, qui prévoit beaucoup à l'avance et tout. Donc, il y en a peu chez les femmes. C'est violet, c'est la famille des violets. Toi, t'es la famille des verts. J'ai beaucoup d'amis qui sont aspirateurs ou dans ta famille, parce que j'aime bien les personnes comme ça, je les trouve cool.
Mais c'est assez complémentaire en fait. Moi c'est pareil, ouais, je connais pas mal de gens qui sont dans le profil violet. C'est vrai que c'est rigolo ce truc avec MBTI. Après il y en a des millions et des millions de tests comme ça.
Faut pas le prendre.
Mais celui-là il est assez amusant quoi. Les petits personnages sont assez amusants. Du coup, pour rebondir sur ton podcast, alors même le principe même du podcast, tu peux nous parler un peu de ton podcast et de pourquoi tu as choisi ce format aussi
Pourquoi j'ai choisi ce format? Parce que j'étais sur le chemin pour aller chez un client. Et en fait, je m'ennuyais. Donc, du coup, j'ai mis un podcast qui s'appelle Le Nomad Show. Je ne sais pas si tu connais.
Si, je connais, ouais.
Je l'adore, ce podcast. Alors, il s'est arrêté, il me semble, mais je l'adore. J'adore la voix du mec. Et j'adore parce qu'il nous fait voyager avec des interviews de gens qui travaillent à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, c'est vraiment cool comme format. Tu peux l'écouter n'importe où, quand tu cuisines, quand tu es dans ta bagnole, quand tu vas dans les transports en commun. C'est génial. Et je ne connaissais pas le podcast. Et du coup, j'ai commencé à en écouter plein. Et je me suis dit, ce serait trop cool de faire un podcast, mais je ne savais pas sur quoi. Et je me suis dit, je vais peut-être interviewer des gens du web, parce que je connais des gens du web à Lyon. En plus, ça fait vraiment une connotation locale. Enfin, je voulais vraiment rester à Lyon. Du coup, voilà, mon podcast, c'est Gone Digital. C'est mon copain qui a trouvé le nom.
Ouais.
Parce que je voulais un truc genre web à Lyon et je n'arrivais pas à trouver. Il a dit Gone, ça fait double jeu de mots. En fait, c'est aller vers le digital et Gone comme le Gone lyonnais.
Voilà.
Du coup, le nom a été trouvé et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool.
Donc, des gens du web?
Oui, des gens du web. Okay. Des gens du web, ça peut être des développeurs, des graphistes, des directeurs artistiques, des marketeurs, n'importe quoi. Tant qu'ils bossent dans le web et qu'ils sont à Lyon, ça m'intéresse.
Okay.
Et qu'ils ont un parcours intéressant. Voilà. Après, intéressant, ça va.
Ça peut être ce que je vais te demander, définir intéressant.
C'est un peu dur, en fait. Tout le monde est intéressant. Mais il y a certaines personnes qui ont vraiment un parcours riche, qui n'ont pas du tout fait des études de marketing ou de communication avant. Et qui en sont là maintenant. J'aime bien ce genre de parcours où on ne s'attend pas du tout. Émilie Niel, que j'ai interviewée, en fait, elle a fait un master ou un doctorat d'histoire de Lyon au XVIIe siècle. Et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais même pas qu'elle savait tout ça. Et j'aime bien savoir des trucs comme ça sur les gens.
Le côté un peu secret, découverte.
J'aime bien parce que les gens se s'ouvrent vachement et racontent des trucs. En fait, je les connais depuis longtemps, mais je savais même pas ça sur eux. C'est génial.
Et tu les organises comment, tes podcasts, du coup?
Alors, je leur envoie les questions. Je suis un peu une contrôle fric. Je leur envoie
Architecte. Voilà, c'est ça.
Je leur envoie une liste de questions à l'avance. Et ils doivent préparer les trois dernières. En général, c'est l'inspiration du moment, les bonnes adresses lyonnaises et qu'est-ce que c'est l'autre? Et les outils qu'ils préfèrent.
OK.
Voilà, c'est ça. Et après, ils les préparent. Et en général, je mets la petite fiche, comme ça ils sont bien préparés. Enfin, voilà.
Ah, tu les installes vraiment?
Ouais, je les installe avec la petite fiche.
Alors que moi, je te lance dans une conversation où je prévois aucune question, rien du tout. Mais c'est des formats qui sont, qui sont complémentaires aussi, encore une fois.
Exactement. Non, mais vaut mieux que ce soit différent et que pas tout le monde fasse le même podcast, hein, sinon c'est nul.
Oui, et puis après, de toute façon, il y a tellement de sujets à traiter.
C'est ça. Donc voilà, je le prépare comme ça.
Ok. Et ça se passe comment? Ça se passe bien?
Ça se passe bien. Il y a des gens, ils sont stressés à la fin. J'ai eu des gens qui ont fait... alors là, vous ne me voyez pas, mais je baisse les épaules. Et ils ont fait comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et j'étais waouh, ça t'a vachement stressé, en fait, de parler. Alors que je leur dis, en général, en rigolant, tu peux venir en pyjama. Enfin, tout le monde s'en fout.
Mais de toute façon, on ne voit pas.
Donc voilà, c'est juste la voix. Mais il y en a souvent aussi, 100% des gens m'ont dit qu'ils détestaient leur voix.
Parce que du coup,
il la réécoute après.
Ah, quand ils réécoutent après, ils se disent, de toute façon, c'était... Voilà.
Mais, ils me disent, oh là là, j'aime pas ma voix, j'ai des tics, etc., etc. Et c'est marrant parce que tout le monde, enfin, personne n'aime sa voix. C'est rigolo, je trouve.
Oui, puis en plus, quand tu es en train de parler, tu peux pas t'analyser en même temps. Donc en fait, ça sort, quoi. Puis quand tu te réécoutes après, forcément, tu es déjà dans une étape d'analyse, donc tu peux forcément pas trouver que c'est cool.
Ouais. Et même au niveau du ton de la voix, mais en fait, j'avais lu un truc dessus, où quelqu'un me l'avait dit, je sais plus, que en fait, la voix que tu t'entends dans ta tête, c'est pas du tout la même qui sort que les autres entendent, parce qu'il y a la résonance des os, je crois, de la bouche. Enfin, bref, du coup, c'est pas du tout les mêmes sons. Et les gens sont parfois déconcertés en écoutant, en disant, ah, c'est vraiment ma voix, ça, c'est marrant.
Voilà. Et puis ça marche pour le visuel aussi. Pareil, le côté comme on se voit en fait dans le miroir, c'est pas du tout la même manière que les autres nous voient.
Complètement.
Et des choses comme ça qui, des fois pour nous, sont devenues super importantes. Comme je sais pas, des détails de. J'avais discuté ça une fois avec quelqu'un, c'était le détail de la coupe de cheveux. Okay. C'est la personne qui se met la coupe de cheveux toujours et puis que tout le monde voit du coup ses propres détails, de la mèche qui va bien. Et du coup, quand tu as la mèche qui va bien, ça veut dire que tu as tout le visage qui va bien. Et tu te dis, c'est parfait. Ouais. Et puis, il me disait, ben, un jour, je me suis dit, je vais laisser cette mèche comme j'aime pas et puis on verra ce qui se passe. Mm. Il a passé une semaine, personne n'a fait aucune remarque. Il y avait même une personne de sa famille qui lui a dit, oh, tu as changé de coupe de cheveux, ça te va vachement bien, pour un détail. Mais du coup, ça a fait, ça te va vachement bien. Et du coup, au bout d'une semaine, il s'est dit, en fait, ça fait des années que je me fais chier à structurer ma coupe de cheveux pour que ce soit mon visage idéal, alors qu'en fait, les autres, soit ne le voient pas, soit me trouvent très bien sans que ça soit structuré comme moi je l'entends.
Complètement.
Bon, ben, du coup, c'est dit, ben, en fait, allez, vas-y.
Je laisse aller.
Je laisse glisser.
Ouais, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont un peu trop dans le détail, moi y compris. Hein. Beaucoup de femmes aussi, je pense, sont vachement dans le « il va voir ça » ou « elle va voir ça ». C'est beaucoup dans le détail et l'apparence, alors qu'en fait, finalement, quand on rencontre une personne, on rencontre la personne en entier.
Ouais.
On a le charme, le charisme, l'humour à côté qui fait que ça fait un tout, qui fait waouh. Et la photo ou même la voix ne fait pas forcément honneur à toute la personne en entier, je trouve.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il manque un peu ça du coup sur les podcasts audio.
Ouais.
Mais en même temps, il y a l'avantage aussi de pouvoir... même pour l'enregistrement en fait, quoi. Le simple fait que là on peut discuter simplement,
ouais.
Il y a juste un micro-cravate qui est là. S'il y avait de la vidéo, du coup on aurait la conscience de cette caméra qui serait juste là en train de nous filmer.
Je serais pas du tout naturelle s'il y avait une caméra, je pense.
Ouais.
J'aime pas du tout qu'on me filme, donc je serais pas du tout naturelle. Je pense que peu de gens sont vraiment hyper à l'aise et hyper naturels devant une caméra. Enfin, c'est rare, quoi. À part les acteurs. Ou...
Ouais. Mais il y a le côté, oui, on a peut-être plus de blocage quand c'est visuel que c'est auditif,
que
vu
c'est
qu'on
auditif.
Donne plus d'importance à la vue qu'à
l'ouïe. C'est pour ça que j'aime bien le podcast. J'aime bien ce format-là parce qu'il n'y a pas le côté voilà, vidéo où il y a le côté je dois contrôler mon image. Là, on doit, entre guillemets, contrôler ce qu'on dit, mais ça va, si c'est naturel, il n'y a pas de souci. Et j'aime bien le côté aussi intimiste qu'on a avec le podcast. Quand on écoute la voix de la personne, on l'a vraiment dans notre tête et on peut l'écouter n'importe où. Elle nous accompagne en fait.
Ouais, tu te retrouves à être un petit peu dans la conversation des deux personnes.
Exactement.
En même temps que tu es dans ton bus.
Ouais.
Moi, ça me fait ça aussi quand j'écoute des podcasts. C'est vrai que c'est assez agréable.
C'est quoi que tu écoutes comme podcast?
J'avais écouté récemment, il y a 6 mois, Nouvelle École, parce que du coup, je cherchais.
J'adore. Ouais.
Et c'était plutôt sympa. Mm. Et après, en fait, c'est marrant, mais le fait que forcément, quand un podcast se développe, la personne a tendance à vouloir inviter des personnes qui sont de plus en plus connues.
Ouais.
Bah, les personnes de plus en plus connues, ce n'est pas forcément les personnes avec lesquelles tu as des conversations de plus en plus intéressantes.
Oui, d'accord.
Et du coup, au fil des épisodes, il y a quand même certains interviews où je me dis, ouais,
c'est pas...
Ouais. Alors qu'il y en a des anciens avec des humoristes, je ne me rappelle plus le nom qu'il avait, mais
ouais.
Ils sont rentrés vraiment dans des discussions qui étaient assez, assez intimes et tu sentais que l'énergie qu'il y avait dedans, elle était complètement sincère. En fait, il ne cherchait pas à raconter quoi que ce soit. Il parlait de son père, de ce qu'il lui avait appris quand il était enfant, comment ça avait impacté son avenir. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc il y avait du cœur qui était dedans.
Mm.
Et alors qu'après, du coup, ça parle beaucoup plus des projets des personnes, ça reste un peu plus en surface.
C'est ça que je pense qui manque un peu dans mon podcast, c'est que parfois, je demande beaucoup le parcours pro des personnes, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est savoir pourquoi elles ont failli, pourquoi il leur arrivait des merdes, en gros, des erreurs, pourquoi elles ont fait des erreurs tout au long de leur parcours. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est les leçons de vie qu'elles apprennent, pas forcément, bah, t'as bossé dans telle boîte, t'as fait ça, c'est intéressant, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est les leçons qui tirent derrière. C'est dur de faire transparaître ça en 20 minutes ou même en une heure, les gens, si tu les connais pas forcément, ils vont pas dire « Hey, j'ai complètement raté ça et ça m'a appris ça. »
Ouais.
C'est un peu chaud.
Ouais, quand on en revient à la logique de l'erreur, quoi.
Ouais.
On n'est pas forcément fier de raconter ses erreurs,
non.
Alors que pour autant, c'est ce qui intéresse les autres personnes.
Bah, c'est plus intéressant, je trouve, parce que les réussites, c'est cool aussi, mais les erreurs, c'est comment t'en es arrivé à là et pourquoi t'es toujours là et qu'est-ce que t'as pris comme chemin détourné pour être où t'es aujourd'hui. C'est plus intéressant.
Tu vois, moi, la base du podcast, en fait, là, je suis resté sur Nouvelle Porte parce que j'ai tout le reste du projet qui est autour. Donc, du coup, je me suis dit que c'était cohérent de rester sur la curiosité et qu'au final, c'était ces petits bouts de curiosité qui allaient pouvoir montrer ce que je voulais vraiment montrer dans les podcasts. Au départ, je voulais les appeler « Comment tu penses, en fait ?» C'était de voir, en fait, pendant 1h30, ce n'est pas forcément les choses que la personne raconte qui est intéressant, mais c'est la manière dont la personne connecte les différentes idées.
Okay.
Donc du coup, quand tu fais parler à une personne d'un événement qui lui est arrivé dans sa vie ou d'une erreur qu'elle a pu avoir, c'est de voir comment elle réagit par rapport au fait de te le dire et de voir comment elle a construit la suite de sa vie par rapport à cet événement-là. Et je trouve que ça, c'est super inspirant.
Ouais.
Moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est de voir des personnes qui te disent « bon bah voilà, là, j'ai tenté tel truc, ça m'a fait planter ça. Et du coup, ce que tu as envie de savoir, c'est ok, bon, tu as planté, et après, comment ça se passe? Soit tu as changé complètement de vie, soit du coup, tu t'es relancé encore dedans, tu l'as
Relancer,
fait deux, trois fois. Donc, du coup, est-ce que cette personne, elle a une logique de persévérance,
ouais. Oui, c'est ça.
d'entêtement, ou tu vois, ça colore beaucoup
Ou de
là,
laisser
c'est
aller,
ça.
d'accord.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les
Oui,
architectes et
sûr.
les inspirateurs, tu vois, c'est
Exactement.
que.
Mais c'est, en fait, c'est difficile, je trouve, de. Ça, c'est dans la vie en général, de savoir, dans un projet, dans une amitié, un amour, n'importe quoi, de savoir quand est-ce que est le moment où tu dois persévérer et quand est-ce que est le moment où tu dois laisser aller. Ça, c'est vraiment chaud, quoi, je trouve. Enfin, moi, ça m'est arrivé où je me suis dit, est-ce que là, je dois me battre pour tenir cette relation-là, professionnelle ou autre, et, ou alors je dois me dire, bon, bah, je laisse tomber et puis je vais voir vers d'autres horizons parce que là, ça ne marchera pas. C'est vraiment difficile. Je pense que tout le monde a droit à une seconde chance, donc j'ai tendance à me battre pendant un certain moment et ensuite, quand ça va vraiment, ça me rend malheureuse, je laisse tomber.
Ouais. Donc au début, tu as tendance à rationaliser un peu le truc.
Ouais, à me dire, bon, c'est peut-être moi, c'est peut-être un problème, je vais vraiment continuer. Et puis, je vais voir. Avec un client, une fois, ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, là, vraiment, j'en ai marre, ça ne me plaît pas, mais je vais continuer à me battre pour ça. Et au bout de 2, 3 mois, je me suis dit, bon, là, laisse tomber, enfin, là, ça va pas, quoi.
Et est-ce qu'il y a des
Je suis
fois où
partie.
tu t'es dit, bon, je vais me battre, et à l'évolution, tu t'es dit, ah bah j'ai bien fait de le faire,
Oui.
parce qu'au final.
Ouais, ça m'est arrivé, ça, déjà. Plus dans le perso que ça m'est arrivé de faire ça. Mais. Ouais, ça m'est arrivé. Des fois, les gens ou les relations ou les projets valent vraiment la peine de se battre. Bah, typiquement, je trouve que le freelancing, c'est vraiment difficile au début. C'est-à-dire, quand tu te lances en indépendant, moi, j'avais, pour la petite histoire, je suis arrivée de Toulouse et j'avais zéro, presque zéro ami, zéro relation professionnelle, zéro appart, zéro thune, j'avais rien. Je suis revenue de nouveau et je me suis reconstruite à Lyon et je suis partie de un client que j'ai encore maintenant. À même pas 20 euros de l'heure, qui payait des peanuts et j'avais pas d'appart ni rien. Et en fait, j'aurais pu me dire, bon, bah, là c'est trop difficile, je vais à un boulot salarié et puis je me case et voilà. Mais en fait, j'ai bien fait de me battre, je trouve.
Ouais.
Pour maintenant, j'ai plein de relations pro, je m'épanouis vachement dans ma vie professionnelle, donc c'était vraiment difficile, mais au
Et
moins.
une question que j'ai envie de te poser, mais elle va être dure à poser parce qu'il faut que j'arrive à être précis,
Vas-y.
c'est quand tu dis se battre dans cette situation-là, ça te donne un
C'est-à-dire
peu
quoi?
un sentiment de ce que ça veut dire se battre pour toi. Et dans les autres situations où tu as été dans se battre, mais où au final ça n'a pas donné quelque chose d'intéressant derrière, est-ce que les deux se battre, c'est la même chose ou est-ce que c'est différent en fait?
C'est intéressant comme question. Je pense que c'est la même chose. C'est difficile à décrire, cette espèce de niaque en fait, où tu te dis là, faut pas que je lâche. C'est trop difficile. Tu as envie de laisser tomber, de dire enfin, je vais postuler un job, je vais. M'en aller, je vais dire non, je vais baisser les bras, je vais pas me lever le matin, enfin j'en sais rien. Moi, ça allait à une déprime, donc je suis partie bien bas. Mais c'est cette même sentiment de non, ça va aller, et d'être resté positif et de continuer à faire ce qu'on. C'est difficile à décrire, cette espèce de
Ouais.
niaque là. Ouais.
Voilà, mais la diac
Mais
est pareille dans les deux cas ou.
pour moi, ouais, elle est pareille dans les deux cas.
D'accord.
C'est le même sentiment que j'ai de
Ok.
pas toi. Prends les armes et vas-y. Voilà.
Non, je te pose ça comme question parce qu'en fait, j'ai eu une
Parce que.
discussion
Ouais.
hier avec un ami, Arthur, que j'avais aussi interviewé pour le podcast.
Ok.
Et en fait, on parlait de l'idée que si jamais on arrive à se sentir, sentir aligné dans ce qu'on fait, on se retrouve à être sur une espèce de vague où c'est fluide. Et tant qu'on est là-dessus, ben, ça se passe bien. Et puis, il arrive des moments où tu as des difficultés. Et du coup, en fait, quand tu es dans cette situation un peu de difficulté, soit tu vas avoir tendance à forcer dans un sens.
Oui.
Et des fois, quand tu forces, en fait, ça devient un effort, ça devient désagréable. Mais tu vas avoir tendance à continuer à forcer. Et du coup, le fait que ça force encore plus, ça te met encore plus dans une situation négative, tu vois. Et dans d'autres cas, situation difficile pareil,
Ouais.
tu vas te retrouver à te pousser à le faire, mais ça va pas te ronger en fait. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais en même temps, c'est rude, mais c'est comme si tu étais poussé,
Ouais, c'est
tu
ça.
vois?
Ouais,
Et en
d'accord, je
fait,
vois.
c'est ces deux.
C'est pas
Et
mal.
le côté rude poussé derrière, il me disait que lui, en général, quand ça se passe comme ça, ça amène sur des choses qui vont être agréables. En fait, c'était le chemin, en fait. C'était une étape du chemin pour qu'il retrouve la vague fluide.
Ouais.
Et que quand il est dans une situation où il sent vraiment que c'est une friction ou genre c'est vraiment râpeux, désagréable,
ouais.
Ben là, ça amène jamais vraiment à quelque chose d'intéressant. Ça amène, comme tu disais tout à l'heure, toi, à un moment où tu es épuisé, où ça te saoule, et où là, tes émotions te disent, bon, en fait, non, on change. Et là, du coup, tu changes.
C'est super intéressant ce côté, même limite. Kinesthésique en fait, que tu as de raconter le râpeux et le fluide, etc. C'est pas mal. J'avais jamais fait la distinction, mais en effet, c'est vrai que je m'étais jamais penchée vraiment sérieusement là-dessus, mais c'est vrai que c'est ça en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Et tu as le côté aussi où ça te coûte, ça te coûte toi en énergie, en temps, enfin, en ce que tu veux, mais au final, quand ça marche bien, tu sais que ça va te rapporter du bonheur ou de la joie ou autre derrière. Alors que quand ça te coûte et tu sais pas ce qu'il y a, et que tu continues à te forcer, c'est compliqué.
Ouais.
Mais ouais, je suis d'accord avec toi pour les deux côtés. Ouais.
Et même sur la partie énergie que ça te coûte, comme tu dis.
Ouais, mais moi j'ai tendance à me donner à 200% à chaque fois dans chaque projet, donc ça me coûte forcément. Parce que je donne tout. En fait.
Ouais.
Donc,
et vu que tu rencontres pas mal de gens et que tu as beaucoup de situations, de relations, justement, on en revient à la relation de départ.
Ouais.
Est-ce que tu as ce sentiment que des fois tu as des... Surtout vu que si tu es un peu plus introverti, moi quand je discute avec des personnes introverties, ils me disent que la relation sociale en fait, ou l'échange a tendance à pouvoir être fatigant.
Oui, ça t'épuise.
Et ouais, c'est ça. Je me disais, moi je sais qu'il y a des fois où je vais avoir des conversations, des discussions qui vont durer le même temps, par exemple pendant une heure, tu vois. À la fin, je vais me retrouver, je vais être crevé.
Venez, ouais.
Et d'autres discussions où à la fin, j'ai plein d'énergie.
Ouais.
Et ça doit être encore plus intense quand
t'es introverti. En fait, je trouve que quand t'es introverti, toutes les relations te coûtent. Même si elles te donnent de l'énergie, elles te coûtent. T'es fatigué à la fin. Même si t'es bien fatigué, t'es content.
Ouais.
Moi, à la fin d'une soirée networking ou d'une grosse réunion, ou même je donne des cours, à la fin, les cours pour moi, c'est le level 10. Tu vois, ça me coûte tellement d'énergie de donner un cours. Et à la fin, je suis vannée. Les introvertis, c'est ceux qui prennent de l'énergie en étant seuls. Et les extravertis, c'est ceux qui prennent de l'énergie en étant avec d'autres personnes. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Donc, toutes les relations me coûtent un peu d'énergie, mais ça dépend des niveaux. On va dire, pour moi, le niveau le plus élevé, c'est un cours. Ensuite, le podcast, c'est aussi beaucoup d'énergie parce que tu dois vraiment te concentrer à écouter la personne. Et même si c'est l'énergie positive, tu dois quand même te concentrer et à la fin, tu es un peu fatigué.
Là-dessus, introverti ou extraverti, c'est pareil.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'en plus, tu es en train de... Même en même temps que je t'écoute, j'écoute pour savoir s'il n'y a pas non plus de bruit qui font chier à côté, tout ça. Tu regardes un peu. Mais c'est marrant parce que tu arrives quand même à rester focus. Comme quoi, le cerveau peut faire plusieurs choses en même temps.
C'est hyper intéressant, ça.
Mais par contre, c'est fatigant du coup.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Ouais, c'est fatigant.
Et les cours, alors du coup, c'est plus fatigant.
Ouais, je trouve.
Tu dirais que c'est pourquoi?
Parce que tu dois gérer une classe. J'ai déjà géré une classe de 35 élèves, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est énorme. 35 élèves, c'est... Moi, j'aime bien les classes de 15-20 parce qu'ils sont en général plus disciplinés, tu arrives à plus les canaliser. Mais 35 personnes, c'est énorme. Déjà, toi, tu dois te dire, bon, je dois les tenir, je dois donner mon cours, je dois aussi faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de bruit. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et en même temps, tu te mets en scène un peu. Et les introvertis, en général, n'aiment pas trop se mettre en scène. Donc, je sors carrément de ma zone de confort en faisant ça. Mais ça me plaît bien, j'aime bien faire ça. C'est très, comment dire, très valorisant. Et puis, tu as des retours aussi des élèves qui sont hyper passionnants. Enfin, tu as des élèves, ils sont super, super créatifs. Donc, c'est génial de les voir à l'œuvre. Je donne des cours d'écriture digitale et de community management.
D'accord. Ouais. Et là, tu as moins d'élèves maintenant?
Pardon?
Tu as moins d'élèves?
J'ai moins d'élèves maintenant, oui. En fait, j'étais à 3A et en fait, on m'a proposé cette année d'en prendre 40 élèves, enfin 4 classes de 40 élèves et je ne peux pas. 40 élèves, c'est beaucoup trop. Maintenant, je donne des cours à l'ISCOM, 18 élèves.
Ouais. Là, ça commence à être un peu plus gérable.
C'est un peu plus gérable.
Ouais, je comprends bien. Ouais. Moi, de toute façon, quand je bosse avec des groupes, même maintenant quand je donne des cours, je suis la logique de facilitateur, donc je fais des groupes de 7 personnes.
Tu donnes des cours de design, c'est ça?
De design thinking, du UX aussi, mais au final, ça commence à se regrouper, à être la même chose.
D'accord.
Dans la logique que c'est un peu de la facilitation, un modèle de pensée et du travail collaboratif.
D'accord.
Mais bon, la logique du travail collaboratif fait que normalement, il faut un facilitateur pour 7 personnes.
Ouais.
Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de friction quand tu es devant ne serait-ce que même 18 personnes.
C'est ça, bah ouais.
Tu n'arrives jamais à... Tu peux pas accrocher 18 personnes à moins d'avoir vraiment une belle mise en scène. Enfin, il faut qu'il y ait tout, quoi. Que ce soit un spectacle, toujours. Limite, quand tu donnes des cours pour 18 personnes. Pour
arriver. Alors que c'est pas un spectacle, un cours.
Voilà, c'est ça.
C'est eux aussi à faire l'effort d'être motivés, quoi.
Déjà, pour 18, alors j'imagine pas 40, quoi.
40, c'est l'enfer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment dur. Même si j'aimais beaucoup mes classes et tout, c'était... À la fin, j'étais complètement... Enfin, j'arrivais vraiment plus à bosser après, quoi. Fallait que je me pose un petit peu pour arriver à bosser derrière, parce que j'étais vannée, quoi. Enfin, vraiment, ça m'a pris toute mon énergie. Mais parce que j'ai donné le meilleur de moi-même pendant une heure ou même trois heures. Il y a des cours qui duraient trois heures d'affilée. Donc je donnais tout et à la fin c'est vous.
Ça aussi c'est un truc assez sensible qu'on peut pas. Enfin, moi j'ai du mal à expliquer, mais qui est assez fou, c'est cette énergie que tu passes.
Ouais.
Tu sais, tu pourrais parler devant plein de gens et en fait tu gesticules et tu parles. Mais il y a gesticuler et parler en étant complètement détaché du truc, et il y a gesticuler et parler en vraiment vouloir communiquer avec les autres, quoi.
C'est
comme si du coup il y avait de l'énergie qui passait à essayer de générer cette connexion, en fait.
Complètement. Mais ça fait un peu pareil, je sais pas si tu connais les TED.
Ouais.
Sûrement tu connais les vidéos TED, et je trouve que c'est pareil, toutes les vidéos TED, ils sont dans ce rythme-là, enfin, où ils ont envie de faire passer un message et une énergie, ça se ressent, en fait. Moi, j'aime beaucoup la méthode TED, j'ai vachement étudié ça, enfin, j'aime beaucoup... J'ai lu le livre sur la méthode TED, etc.
Okay.
Et je trouve ça génial, en fait, parce qu'en 18 minutes, ils essayent de faire passer un message de manière hyper vibrante et hyper parlante pour tout le monde. C'est super dur à faire.
C'est quoi le truc central, du coup, qu'ils mettent dans cette méthode?
C'est que tu dois faire passer un message. Un message, et qui doit être innovant. Donc, tu dois... Voilà, en général, c'est des personnes très expérimentées ou qui ont vécu quelque chose de fort. Et du coup, prendre cette énergie-là et essayer que ce soit... comment dire, que ça parle à tout le monde, que ce soit universel, voilà, que ce message-là soit universel. Et pas te t'éparpiller en plein de messages différents, mais que à la fin, cette vidéo-là, ça t'ait appris quelque chose et ça te fait passer un seul message.
C'est ça qui est fou, c'est que, en fait, si, avant de donner une vidéo TED, t'apprends plus à partager l'énergie que tu mets sur le sujet, au final, que le sujet lui-même, quoi.
Que le sujet lui-même.
Les gens accrochent à l'énergie et du coup, forcément, ils accrochent au sujet derrière.
Ouais.
Mais ça passe par l'énergie que tu communiques.
Ça passe
et
par.
Alors là, on est complètement dans une dimension.
Ouais.
Qui est assez folle, parce que tu peux pas vraiment trop l'expliquer ce qui se passe.
Ben, c'est ça, parce qu'on peut te parler de physique quantique, alors moi j'y pige rien, tu vois. Mais la personne peut être tellement intéressante et la forme tellement géniale que tu te dis waouh, j'ai envie d'écouter cette vidéo sur la physique quantique. C'est bon. Alors qu'une vidéo finalement sur le social media qui m'intéresserait plus, elle est plus barbante parce que la personne elle n'a pas un angle original ou qui me plaît bien. C'est vrai que c'est difficile à expliquer ce genre de choses.
Ouais, c'est vraiment sur de l'énergie qui passe, quoi.
C'est marrant ce concept d'énergie, ça me fait rire. Je sais pas comment l'expliquer aussi.
J'ai pas plus de vocabulaire que ça dans ma tête quand je dis énergie.
Tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais personne, c'est pas concret, quoi.
C'est ça. On peut pas trop le rationaliser.
Ouais.
C'est plus du ressenti.
Moi j'aime bien.
Du ressenti pur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et t'arrives à avoir justement cette intensité-là quand quand tu es sur tes podcasts, justement, tu arrives à générer ça?
J'essaye de générer ça. Alors, des fois, ça ne marche pas, mais je ne sais pas comment... J'ai pas eu énormément de retours de comment les gens écoutaient mes podcasts, mais j'ai eu des retours vraiment super sympas en disant qu'ils sont géniaux et tout. Mais je ne sais pas comment les gens perçoivent, en fait, l'énergie, justement, qui est dans le podcast.
Ouais.
J'essaye de faire passer quelque chose de positif et de cool et de détendu et de fun, mais voilà, je ne sais pas si ça transparaît ou pas, mais j'essaye de faire passer ça, en tout cas.
Et pour les personnes que tu as interviewées?
Que ce soit un super moment. Vraiment, j'ai envie, je les chouchoute, j'essaye vraiment que ce soit en sorte de qu'ils passent un bon moment, quoi. Et puis qu'ils parlent d'eux, c'est toujours chouette de parler de soi, de ton expérience, de ce que tu as appris, etc. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils parlent d'eux et que ça leur fasse plaisir de parler et de transmettre quelque chose aussi. Marianne, là, une des dernières podcasteuses, elle m'a étonnée parce qu'elle était... Elle a voulu partager son expérience un peu difficile avec une entreprise. Et c'était hyper intéressant sur le burn-out, etc. Et puis à la fin, elle s'est mise à chanter. Enfin, pour moi, c'était un cadeau, en fait. C'est génial, je trouvais ça génial.
Ah, clairement, ouais. Puis là, c'est complètement connecté à l'énergie, du coup. Ça vient d'elle, c'est un moment où elle avait envie de te partager ça.
C'est personnel, en plus, voilà, c'est fou. J'étais trop refaite quand elle a fait ça. Ouais.
Parfait, ça me fait un sens de transition.
Ouais.
Là, on a parlé du podcast. Et je veux bien tes sujets de curiosité ou tes réflexions du moment, comme ça on rentre un petit peu sur toi.
Je les avais notés. En fait, j'aime bien le mouvement body positive, en fait. Je m'intéresse vachement à ce mouvement-là.
Body positive.
Body positive, ouais. Et à l'influenceuse qui s'appelle Ashley Graham, je ne sais pas si tu la connais.
Non.
C'est une mannequin qui est plus size et elle est super inspirante. Moi, j'aime beaucoup sa manière d'être. Elle est très confiante en elle et je m'intéresse beaucoup à tous ces sujets-là en ce moment. Et,
tu peux expliquer un peu le sujet ?
Le sujet,
si je ne connais pas
alors,
particulièrement
celui-là. Le mouvement body positif, c'est en gros, c'est, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais c'est d'être bien avec son corps et, d'être dans la bienveillance avec son corps et celui des autres. C'est-à-dire de ne pas trop juger. Et c'est aussi surtout pour les femmes, pour et par les femmes, parce qu'on est tout le temps jugé sur notre apparence avec les magazines, les réseaux sociaux, etc. Des fois, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses avec ce qu'elles ont parce qu'elles ne se sentent pas assez minces, musclées, grandes, etc., mmh. etc. Mais j'ai remarqué, moi, dans tout mon entourage et toutes mes copines, dans toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, en fait, tout le monde est assez complexe, tout le monde. Même la mannequin qui fait du 36 et qui est magnifique, elle a un complexe quand même. Donc, le body positif, c'est d'être content avec ce qu'on a, du mieux qu'on peut, bien sûr, et d'être plus dans la bienveillance envers soi-même et pas trop juger les autres. En gros, c'est ça, quoi.
Ok.
Donc, moi, j'aime bien ce genre de mouvement parce que pour moi, c'est vraiment difficile de m'accepter. Je suis très… je me flagelle beaucoup par rapport à mon apparence et du coup, j'essaie de plus m'accepter. Et ce mouvement-là, je trouve qu'il aide beaucoup les femmes et même les hommes, enfin, tout le monde, en fait, à s'accepter mieux tel qu'on est. Et j'aime bien ce mouvement-là.
Tu penses que ça vient d'où, le fait de ne pas s'accepter tel qu'on est à ce point ?
Je pense que c'est plein de trucs, c'est l'éducation aussi beaucoup, c'est nos parents qui nous apprennent aussi à ne pas forcément s'aimer. Moi je sais que mes parents ils ne s'aiment pas spécialement au niveau de leur apparence, du coup ils ne m'ont pas forcément appris à dire « Hey, tu es bien comme tu es, enfin, fais attention à ta santé, bien sûr c'est fait du sport, mange sainement et tout, ça n'a rien à voir, hein. tu peux manger sainement et faire du sport etc. mais ne pas t'aimer quand même, c'est vraiment pas… » je pense que ça vient beaucoup de l'éducation et aussi de l'entourage, c'est-à-dire que quand… entre copines par exemple et qu'une nana fait ah j'aime pas ça chez moi, toutes les autres vont faire ah oui mais moi non plus j'aime pas ça chez moi etc. Moi j'essaie de bannir ça, c'est à dire maintenant entre copines je fais bon on arrête, on parle, on fait pas ça,
on part du principe qu'on aime tous pas quelque chose chez nous,
voilà.
Et puis on parle d'autres choses
et puis, chose.
Puis on laisse on les glisser, quoi.
Ouais c'est ça, plutôt que de faire ah moi non plus j'aime pas ça, je devrais être plus comme ça ou je devrais être plus comme ça, en fait non pas forcément quoi. C'est bien de vouloir s'améliorer, moi je veux toujours m'améliorer au niveau de mon corps, de mon apparence et tout, mais il y a des fois, il faut se foutre la paix un peu, quoi. C'est important.
Sauf faire les vacances.
Ouais, c'est ça.
Et pourquoi tu veux t'améliorer ?
Je sais pas. Pourquoi tout le monde veut… Enfin, pour moi, c'est normal de vouloir s'améliorer. J'ai envie d'être une meilleure personne dans tous les domaines. Voilà.
Ok.
Je pense que c'est… Je sais pas, tout le monde a envie de s'améliorer. Non, je sais pas. Peut-être
non, mais c'est intéressant. Parce qu'il y a en fait, il y a plein de termes là-dessus. Dans le podcast que j'avais avec Simon, lui, il parlait d'évolution, en fait.
Ouais.
Lui disait pas m'améliorer, mais il parlait d'évoluer. Et lui, pour lui, en fait, tout ce qu'il fait, tout ce que les humains font, c'est dans le but d'évoluer, dans tous les cas. Ça rejoignait un peu le simple fait de l'évolution de la vie, tout ça.
Le progrès, ouais.
Mais voilà, et c'est toujours… Après, il avait une connotation assez performance aussi là-dedans.
Oui,
quoi.
C'est ça.
C'est toujours… Il y a un côté un peu mieux, quoi, tu vois. Et après, je sais plus avec qui j'avais discuté de ça, mais c'était le côté évolution, mais qui était encore moins dans le jugement, c'était de se dire, en fait, ok, donc, tout évolue tout le temps. Si jamais je mets une connotation sur quelque chose qui est mieux ou moins bien par rapport à moi, en fait, c'est juste moi qui crée des codes.
Ouais.
Mais en vrai,
d'accord.
C'est juste une évolution.
Oui, c'est ça, complètement.
Tu vois,
ouais, ouais.
Mais c'est très difficile de… Moi, je sais que quand je vais faire moins de sport ou que je vais moins bien manger, je ne vais être en train de me dire que je suis dans une forme d'évolution.
Oui.
Je me dis que je suis dans une forme
régresses.
De dégradation.
Ou, ça,
voilà. Et puis après, si jamais j'arrive à respecter un peu mes espèces de codes ou d'obligations morales que je me crée tout seul, là, je me dis, c'est bon, ça y est, là,
je suis
sur mon fil, tout se passe bien, je m'améliore, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que tout le monde est comme ça. Enfin, tout le monde te dit, là, si je respecte ça, c'est OK, je suis sur le bon chemin. Et si on a un écart, c'est horrible et il faut absolument se remettre en droit chemin. Ce qui est bien dans le sens où on sait ce qui est bien ou pas bien pour notre santé, par exemple, mais… Je trouve que des fois, le côté flagellation prend trop d'importance par rapport… On peut se dire, hey, regarde tout le progrès que j'ai fait, tout le progrès que j'ai accompli. En gros, c'est être positif. Enfin, c'est plus dans la positive attitude que de se dire, c'est horrible, tu es une mauvaise personne parce que tu as mangé peut-être ça ou tu n'as pas fait de sport depuis 2 jours. Enfin,
c'est plus… Et depuis le temps que tu es un peu dans cette réflexion un peu plus positive, ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu te laisses de plus en plus tranquille, justement ? Ou est-ce que tu es de plus en plus exigeante ?
Ouais, non, enfin, moi je suis hyper exigeante avec moi-même, c'est terrible. Et donc c'est un cheminement. Là, je m'intéresse depuis quelques temps, mais c'est vraiment un cheminement personnel. J'essaye de l'appliquer à moi et d'essayer de le répandre, tant bien que mal. Mais je ne me rappelle plus ta question, je suis désolée.
Non, t'inquiète. Non, je disais, je disais, est-ce que depuis que tu es sur justement cette réflexion-là, de te laisser être plus tranquille et d'être plus sur un raisonnement positif par rapport à toi-même ou par rapport aux autres, est-ce que tu trouves que tu te laisses plus facilement tranquille ou est-ce que tu es plus facilement encore plus exigeante avec toi dans le détail?
Je me laisse un peu plus tranquille. Je pense que ça me fait du bien. Ça aère un peu le cerveau, en fait. C'est un peu comme quand tu fais de la méditation. Je pense que ça fait un peu un reset et ça te fait regarder les choses différemment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé à prendre conscience. Il y a un spectacle de Amy Schumer. C'est une actrice américaine. Et elle disait j'en ai marre de me prendre la tête avec mon apparence, parce qu'elle est un peu, enfin, elle est pas dans les canons beauté normaux. Et elle dit j'en ai marre de me prendre la tête avec mon apparence parce que mon père, il a la sclérose en plaques et en fait il a pas pu marcher pendant, enfin il a été paralysé très rapidement, alors que moi j'ai un corps qui est cool, qui me permet de courir, de sauter, de voyager, de faire plein de choses. Et en fait c'est plus sur ça qu'il faudrait se baser, quoi. C'est-à-dire, on est content d'avoir un corps qui nous permet de se lever chaque jour, de vivre, de discuter, de faire plein de choses. Et c'est sur ça que j'aimerais plus m'orienter. Donc, je suis moins exigeante envers moi-même et je me laisse plus tranquille. Donc, mentalement, c'est mieux, je trouve.
Ouais. Ouais. Ouais, tu as plus une démarche de te créer de la liberté, en fait.
Ouais.
Autant mentale que physique, quoi.
Ouais, c'est
plus tu es en santé et plus tu peux faire trucs avec ton corps, plus tu es libre.
Parce que ça te prend du temps, en fait, de te flageller. En fait, tu penses pas à d'autres trucs pendant que tu te flagelles en te disant je suis moche ou je suis pas assez ça. Tu prends du temps mental. Tu réfléchis pas à d'autres trucs hyper intéressants auxquels tu pourrais penser. Donc ça libère du disque dur, en fait.
Ouais.
Du coup, pour mettre d'autres programmes dedans.
Et quand tu veux justement arriver à couper un petit peu cette boucle qui se passe dans la tête, tu fais quoi du coup? Méditation ou aller
sport,
faire du sport?
C'est bien, le sport c'est bien, ça libère vachement de... En général, ça te met une espèce de shot d'endorphine qui est ouf. Et méditation, c'est cool. Tu peux faire une sieste. Tu peux aller voir un pote qui est bienveillant et qui te dit hey, « tu es vraiment chouette comme personne. » Et tu fais « Yes, ok, je suis chouette comme personne. » Et puis ça repart. Ou te faire plaisir d'une certaine manière. Mais méditer ou faire du sport, c'est deux très bonnes solutions, ouais, je trouve.
Et du coup, t'arrives à le faire régulièrement? T'as besoin d'avoir une grosse quantité de calancha ou de sport ou de méditation?
Calancha,
ou...
j'en ai besoin. J'ai besoin de ma dose chaque jour. Mais sport, j'en fais deux, trois fois par semaine. Mais quand j'en fais pas pendant... Là, ça m'est arrivé récemment parce que j'avais pas mal de taf. J'avais beaucoup de taf. J'en ai pas fait pendant une semaine. Je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais toute étriquée. Je me sentais mal, quoi. J'avais besoin de faire du yoga ou courir n'importe quoi. Mais il faut se dépenser, quoi. Surtout quand on est dans un métier très intellectuel où on est toujours... Enfin, moi, j'ai pas un métier très intellectuel, mais c'est plus toujours dans l'ordi ou écrire ou ce genre de choses, pas un métier manuel. Faut prendre le temps du manuel aussi, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, pour arriver à trouver un équilibre.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, méditation, calancha et sport, c'est bien.
Ok, on gardera ces codes.
Ouais,
t'as un autre sujet?
J'ai un autre sujet. Je regarde.
Comme ça, on en fait plein.
J'ai plein de sujets, après c'est... Je sais pas si c'est...
Vas-y, au ressenti, celui qui te vient et que t'as envie de partager.
Je sais pas, moi je suis très tournée sur la question de est-ce que je vais tourner vegan ou pas, en fait, parce que je suis déjà végétarienne.
Ok.
Et en fait, le bien-être des animaux, l'éthique animale, etc. m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup de livres à ce sujet, je regarde beaucoup de documentaires et ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là. Du bien-être animal, et j'aimerais vraiment que la société mette un boost de plus pour qu'on soit déjà qu'on abandonne la viande rouge, blanche, ensuite qu'on abandonne le poisson et ensuite qu'on soit tous vegan. Mais dans l'idéal, ce serait vraiment cool.
Pourquoi tu as un ordre sur le...
Parce que
la viande ou le poisson? Je suis curieux à chaque fois de ça.
Non, en fait, c'est pas un ordre, c'est... D'accord. Plus que les gens, en fait, en général, me disent « bah tu manges toujours du poisson ».
Ouais.
En fait, quand t'es végétarien, tu manges pas de poisson ni de viande. En fait.
Ça, c'est marrant ce code, je sais pas d'où ça vient. J'ai jamais compris.
Enfin,
ok, t'es végétarien, du coup tu manges pas de poisson.
Je sais pas pourquoi. En fait, parce que le poisson, on a moins d'affinité. Je sais pas. Je sais pas. C'est bête. Non.
Parce qu'il y a encore plein de gens avec qui tu peux parler de ça. Moi, ça m'est arrivé il y a une semaine. Là, tu dis viande, en fait, dans leur tête, c'est pas du tout lié à la poisson.
Ouais. C'est vraiment la viande.
Viande, c'est chair animale, donc poisson, ça rentre. Mais le poisson, en fait, on s'en fout. C'est un machin de la mer.
On s'en fout, c'est un machin de la mer. Moi, j'ai été pescétarienne pendant longtemps. En fait, j'ai vachement... Pescétarienne, c'est genre qui mange que du poisson.
D'accord.
Qui mange pas d'autres trucs, mais du poisson, oui. Ce qui est bête, parce que en fait, le poisson, c'est un animal, donc il ne faut pas faire de distinction. Quoi. Mais j'aimerais vraiment être végane. J'essaye vraiment de le faire là, en ce moment, de plus manger de fromage ni rien. C'est vrai que c'est difficile quand on est en société, mais je pense que c'est un idéal auquel j'aimerais tendre. Et, des fois, je ne suis pas très comprise par certaines personnes de mon entourage, parce qu'être végétarien, c'est déjà un pas que beaucoup de gens ne font pas. Et du coup, ne comprennent pas. Alors que c'est hyper simple et qu'on peut cuisiner plein de trucs super bons en étant végétarien.
Ouais.
Je sais pas si tu l'es aussi.
Moi, j'avais fait un mois entier vegan il y a deux ans pour expérimenter. Cool. Parce que j'étais encore coincé dans ma tête sur les codes « il faut manger de la viande ». Du coup, ça m'a fait sauter ça. Je me suis dit « en fait, non, c'est complètement faux ». Après, je me suis rendu compte que je pouvais cuisiner plein de choses cool sans viande. Donc ça, c'était un deuxième truc intéressant. Après, j'ai pas mal changé toutes mes habitudes pour être le plus proche de végétarien possible.
Ouais.
Et là, actuellement, à la maison, on cuisine tout le temps végétarien ou vegan. Et par contre, quand je suis dehors, je t'avoue que c'est vrai que je laisse complètement glisser.
C'est ça qui est difficile, c'est quand on est à l'extérieur, quand on fait des dîners, des apéros, et même quand on fait des repas entre... d'affaires ou de business, c'est super dur. Là, il y a une cliente, elle m'a amenée dans un resto où ils faisaient pas du tout de plat végétarien. Quoi. Mais c'était difficile de le dire. En fait, est-ce que vous pourriez enlever ça, puis rajouter ça
Est-ce que vous pourriez me laisser juste de la salade et puis voilà, juste de la salade.
Des légumes, c'est bien. Mais c'est difficile quand on est en business de dire... la personne fait « Ah bon, mais tu manges pas de viande, etc. » Et toi, t'es là. « Allez, je vais devoir m'expliquer. » C'est un peu chiant. J'aimerais bien que ce soit un peu plus mainstream d'être végé / vegan.
Tu penses que c'est quoi qui pourrait aider à ce que ça...
L'écologie, je pense. Parce que l'éthique animale, il ne faut pas être... La plupart des gens s'en foutent, je pense. Ce qui est dommage, parce que moi, c'est mon premier fer de lance, c'est justement l'éthique animale. C'est toutes ces vidéos que j'ai vues où tu vois les veaux en train de se faire découper, les poulets entassés, enfin, les choses comme ça qui te font... Moi, ça m'a vachement choquée, quoi. Quand tu te mets à la place de l'animal, c'est impossible de ne pas être empathique. Mais il y a... Au-delà de ce côté-là émotionnel, tu as aussi le côté écologique. Manger de la viande rouge, c'est vraiment pas bon pour la planète. Quoi. Et comme là, on voit qu'il y a quand même pas mal de mouvements écolos. Je pense que ça peut être mon troisième sujet de curiosité, que je suis hyper intense.
Vas-y, c'est bon, c'est parfait.
Mais voilà, je pense que écologiquement parlant, manger moins de viande, c'est très bon pour la planète. Donc je pense que ça fera bouger aussi les mentalités, à mon avis. Voilà. Je ne sais pas si tu es allé à la marche sur le climat, c'était il y a deux semaines, un truc comme ça. Et c'était intéressant, moi j'y suis allée à Lyon. Et là, ils en refont une, je crois, dans une semaine ou deux.
Tu sens que c'est des mouvements qui peuvent apporter...
porter la cause végétarienne. Et dans un sens global, nous faire aller vers le mieux. Parce que là, ça va plus, quoi. Pour pas être pessimiste, là, il faut vraiment se bouger les fesses. Parce que sinon, ça va pas le faire.
Et tu vois comment, toi, un peu l'avenir moyen terme.
Soit on arrive à faire bouger les décideurs, à faire bouger le gouvernement, parce que nous, c'est sympa, hein, on peut couper l'eau, manger moins de viande, faire plein de petits pas comme ça, mais ça ne va pas être assez. Il faut qu'il y ait des lois qui passent, il faut que la planète soit notre number one priorité, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc si on arrive à faire ça, je pense que moyen terme, on est plutôt bon. Si on n'arrive pas à faire ça, je suis plutôt pessimiste, moi. Je pense comme Elon Musk qu'on va devoir aller
sur Mars.
Se barrer sur d'autres planètes. Bon. Parce que c'est trop dommage, parce que la Terre, c'est une chouette planète quand même. C'est la seule qu'on connaît qui est vivable, donc il faudrait qu'on reste dessus.
Et puis il y avait plein de trucs cool dessus.
Il y a plein de trucs cool dessus.
Il y a moins de 80%, c'est quand même dommage aussi.
Ouais, c'est un peu con. Je suis assez optimiste dans le court terme, mais un peu pessimiste dans le long terme.
Ok. Et toi, comment du coup tu peux voir ton quotidien ?
Mon quotidien.
Pour aller dans le sens de l'amélioration.
Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a choisir comment. Il y a une phrase que j'aime bien qui s'appelle consommer, c'est voter. en fait. Donc la manière dont tu consommes, en fait, tu votes pour le monde que tu veux demain. Donc là, je me suis renseignée vachement sur comment consommer des fringues qui soient plus écolo, plus bio, plus équitable, etc. au lieu d'aller au Primark ou au Zara du coin, tu vois. Parce que les conditions sont pas terribles. Manger végé, voire vegan pour vraiment être plus éthique. Et après, recycler, faire plein de petites choses comme ça au quotidien. J'essaye vraiment de faire ce que je peux. Alors, je ne suis pas un modèle de vertu du tout en écologie, hein, vraiment pas. Mais je pense que si chacun fait du mieux qu'il peut et le plus informé possible, je pense que ça se passera bien. Ben, mon profil MBTI, c'est architecte. Et une des phrases que l'architecte dit, c'est plus tu es informé, mieux tu peux faire des choix en conséquence. Et je pense vraiment que ça, c'est une de mes valeurs fondamentales. C'est plus tu es informé sur un sujet, mieux tu sauras décider, en fait. Mieux tu prendras ta décision dans des meilleures conditions possibles. Je ne sais pas si c'est très clair.
Ouais. Tu as besoin d'avoir un maximum d'infos. Et ensuite, après, tu peux être rassuré, on va dire, sur les choix que tu feras, quoi.
C'est ça.
Du coup, tu peux passer à l'action plus facilement.
Exactement.
Et pour remplir ta boîte d'informations, tu fais comment ?
Documentaire, beaucoup de livres. Lire, c'est la vie. Je sais pas comment les gens qui ne lisent pas font. Je lis tout le temps. Lire des bouquins, écouter des podcasts, ça peut être très utile. se renseigner avec les gens qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs. Je pense notamment à, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Partager, c'est sympa. Je ne sais pas si tu connais, c'est la page Facebook.
Je crois que je connais loin, je ne suis pas.
C'est un mec vraiment cool avec une casquette où il y a marqué partager, c'est sympa. Il va dans les quatre coins du monde pour aller interviewer des gens qui sont écolos, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Il t'apprend des trucs tout le temps. Donc, c'est diversifier les canaux de communication et de partage pour pouvoir mieux être informé et faire des choix informés. C'est hyper important. Je trouve qu'on ne peut pas faire de choix si on n'est pas informé. Enfin, moi, j'ai des périodes complètement obsessionnel sur un sujet parce que j'ai besoin d'en savoir maximum dessus pour pouvoir après décider ce que je fais ou pas. Dans le végétarisme, quand je m'y suis mise, je me suis dit bon, là je vais y aller à fond, je vais regarder toutes les vidéos, je vais regarder tous les documentaires, je vais parler à des gens qui sont végétariens, etc. pour savoir si c'est bien ou pas, quoi.
Ça tombe bien parce que voilà, vu que tu as ce profil architecte et donc où tu es vachement intéressé par l'information et qu'en plus tu bosses dans le web et sur le contenu du web, toutes ces choses-là, oui. Moi l'impression que j'ai de plus en plus, c'est que y a un alignement global des préoccupations ou des nécessités d'information de tout le monde.
Oui.
Ça veut dire qu'en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que ben là, par exemple, tu vois, c'est environnement. Mais quand les gens vont parler d'environnement ou quand ils vont citer les sources qu'ils ont trouvées, ça va toujours regrouper à peu près sur la même source d'information. Quand une personne va te dire, tiens, il faut que tu lises absolument tel livre, et ben, tu es quasiment sûr que quand le livre, tu l'auras, il y en a 10 autres qui vont t'en parler dans la foulée.
Ouais.
Et des fois, j'ai cette espèce d'impression qu'il y a tout le monde qui est connecté sur le même flux d'informations. Et je me dis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour remettre un peu d'aléatoire là-dedans ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour... la préoccupation que je me pose, c'est que je me dis, il faudrait absolument que moi, si je veux m'informer ou m'ouvrir un peu sur d'autres champs, que je le fasse offline, en fait. Que je trouve... Je vais retourner dans une librairie, je prends un bouquin au hasard à Cadence dans le Vieux-Lyon, je discute avec quelqu'un que je ne connais pas, je lui demande de me donner un bouquin qui l'a inspiré. Mais pour complètement sortir de... Comment tu le sens, toi, par rapport
à ça ? C'est ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que quand tu es sur l'Internet, tu restes complètement dans une bulle, notamment sur Facebook. Tu as toujours les mêmes vidéos que tu vois, parce que tu restes dans ta bulle, tu restes dans ton cercle d'amis, et même sur Google, sur Facebook, sur plein d'autres plateformes, sur Instagram, tu restes vraiment dans ce qui te plaît. Donc, c'est l'algorithme qui est fait comme ça. Ce sont les algorithmes qui sont faits comme ça pour te faire rester dans les mêmes... centre d'intérêt. Du coup, tu vois pas d'autres choses et ça t'inspire pas à aller voir différemment. Donc, je pense que faut être IRL pour s'ouvrir plus l'esprit. Voyager notamment, je pense que voyager, ça t'ouvre complètement l'esprit, quoi. Ça te fait rencontrer des nouvelles personnes qui n'ont pas du tout ton champ de vision, pas du tout ta même réalité. Je pense que les voyages, ça forme vraiment ton esprit à plus s'ouvrir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, parfois, faut se couper un peu du digital, même si moi je baigne dedans, j'adore ça, etc. Mais il y a des fois la vraie vie, c'est quand même vachement bien.
Ouais.
et c'est vachement bien pour te faire découvrir de nouvelles choses.
Ouais. Et quand tu veux diversifier toi ton information, justement, tu as tendance à faire comme ça ? Tu prends un train et tu veux voyager ou...
Non, je suis plus tendance à être dans la tendance bibliothécaire, à plus aller voir tous les documentaires qui ont été faits, etc. Mais à faire une recherche un peu poussée, comme si j'allais écrire une thèse sur le sujet, quoi.
Mais tes sources, justement, pour faire ta recherche ?
Mes sources, ben...
Parce que je veux dire, par exemple, quand tu te renseignes sur un sujet, par quoi tu passes pour arriver à trouver tes documentaires, par quoi tu passes pour arriver à trouver tes livres,
parce que c'était... J'allais dire Google, mais...
Voilà, tu vois, c'est ça que je voulais dire.
C'est
la source d'entrée passe par quelque chose qui est géré par un algorithme ou par des suggestions qui sont liées à des personnes que tu connais ou quoi que ce soit,
ouais.
Tu te retrouves en fait à très rapidement tourner en rond aussi, quoi.
Après, je demande souvent aux gens que je connais aussi, mais c'est des gens de mon entourage, donc c'est vrai que ça reste aussi... Tu restes aussi dans une même bulle. Le mieux, c'est de voyager. Après, on n'a pas tous le temps ou l'argent de partir, mais quand même, le mieux, c'est que si tu t'intéresses à un sujet, tu vas au sommet de l'écologie, j'en sais rien, à Cuba. Je dis n'importe quoi, et tu vas là-bas et tu parles à d'autres personnes. Et là, vraiment, tu auras une source infinie d'informations et ce sera mieux.
Est-ce que tu n'as pas peur, des fois, toi, qu'avec justement cette logique des internets, où du coup, tout le monde est connecté sur les internets, dès le moment où quelqu'un s'intéresse par exemple au sujet de l'écologie ou au sujet du véganisme, que ça soit au fin fond de l'Argentine, au Brésil, en France ou peut-être pas en Chine, mais quoi que, on se retrouve au final, même s'il y a un sommet dans un pays étranger à y aller, à quand même tourner en rond un peu sur le même sujet, parce que tout le monde a trouvé ses sources d'inspiration d'aller faire son tour sur Google et sur...
Je pense pas, parce que justement, tu as plein de forums, tu as plein de blogs, tu as plein de vidéos qui se créent de gens très différents. Et du coup, je pense que chacun apporte son truc, sa pierre à l'édifice. Et après, le problème, c'est que plus tu as d'abonnés ou de personnes qui te suivent, plus tu as de visibilité. Donc, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du contenu, mais que les petits poissons ne sont pas assez vus, du coup, alors qu'ils ont un point de vue intéressant, justement. Je pense que c'est plus ça après... je pense qu'il faut donner plus de visibilité et chercher un peu plus en détail et pas forcément s'arrêter à la deuxième page de Google pour avoir toutes tes infos, mais vraiment diversifier les sources d'infos. Et limite, comme tu dis, aller à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est très bien.
On prend au hasard un bouquin.
Ouais, c'est ça, carrément.
Mais pour les personnes justement qui sont beaucoup suivies, comme tu disais, moi je sais que ça m'arrive de volontairement aller regarder les personnes qui suivent cette personne.
Oui.
Et du coup, là-dedans, souvent, il y a des vraies perles parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout connus. Mais au final, ils suivent la même étoile d'influence que moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont un cheminement de pensée qui peut être assez proche. Donc là, on se retrouve encore en cercle fermé parce que c'est assez proche. Mais des fois, le faire aussi sur d'autres choses, comme par exemple des influenceurs que moi, je n'aurais pas du tout tendance à suivre, sur des courants de pensée qui peuvent être vraiment très éloignés, et aller regarder des personnes qui les suivent aussi. Pour voir un peu ce qu'eux
écrivent.
Je me sers beaucoup de Medium, par exemple.
J'adore Medium aussi. Ouais.
Parce que Medium est une plateforme qui est plutôt cool pour découvrir des personnes qui écrivent des choses qui peuvent partir dans tous les sens. Donc, c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que des fois, j'ai vraiment le sentiment d'une difficulté à...
aller
toucher quelque chose qui ne me parle pas du tout. J'avais l'idée de me dire qu'il faudrait que j'arrive à faire des podcasts avec des gens qui n'ont rien à voir du tout avec mon cercle, quoi.
Ouais,
limite j'aille à Vaux-en-Velin où je ne vais jamais discuter avec un gars qui a monté un petit business là-bas d'artisan ou je ne sais quoi, et puis je me fais une discussion d'une heure avec lui et je lui demande qu'est-ce que tu lis comme livre, comment ça se passe ton quotidien, sans jugement aucun, justement par rapport à la différence qu'il y a par rapport à ma bulle, parce que volontairement moi j'irai chercher en fait cette source de richesse et de différence, quoi. Je me dis que des fois c'est peut-être ça.
Ce serait pas mal de faire ça, je pense que c'est
d'aller chercher des gens qui sont invisibles en fait sur les réseaux internet, mais qui sont là, quoi.
Qui sont hyper intéressants. Là, faut y aller dans la vraie vie pour aller chercher des gens qui sont, parce que tous les gens intéressants ne sont pas sur internet, clairement pas. Donc faut aller les chercher en vrai, quoi.
C'est marrant ce paradoxe quand même, quand on se dit qu'avec internet on peut avoir accès à tout le savoir possible imaginable, et qu'il faut revenir dans la vraie vie pour arriver à trouver des choses qui sont vraiment différenciantes, quoi.
Ouais. Tout revient à la relation, donc que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, je pense que c'est ça qui définit, qui t'apprend de nouvelles choses et qui te met sur des nouveaux chemins, je pense.
Et du coup, en bossant dans le web, tu arrives à favoriser autant les deux types de relations ? Parce que comme tu disais, pour le sport, il y a besoin de... Quand on est beaucoup derrière l'ordinateur, on a besoin de sortir pour bouger. Est-ce que tu favorises surtout les nouvelles rencontres ou les relations
Avec le podcast, en fait, ça m'a vachement aidé à élargir mon cercle de relations et à aller chercher de nouvelles personnes, à aller parler à de nouvelles personnes. Donc, j'essaye de... tout le temps. Après, je vois souvent les mêmes personnes en after work ou en réunion de freelance et ce genre de choses, mais on rencontre toujours des nouvelles personnes qui s'intéressent au web ou au mode de vie freelance, etc. Donc, moi, j'essaie d'équilibrer les deux. Parce que si je vais que sur Internet, ça, il me manque la vraie relation avec la personne qui est là en face de moi. Donc, je pense que les deux sont assez équilibrés dans ma vie, en tout cas.
Et en réel, tu vas où ? Quand tu es curieuse et que tu veux explorer en réel, comme ça, ça fait une curiosité. Ça ne sera pas une curiosité du coup de sujet, mais une curiosité
de lieu.
D'événements ou de lieux.
J'adore le rendez-vous des freelances lyonnais parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent. C'est à la Tour du Web, c'est tous les premiers vendredis du mois, il me semble. Il me semble, mais il faut aller regarder parce qu'on a une page Facebook. Et c'est génial parce que tu as toujours plein de personnes. Et malgré que j'y sois très souvent, en fait, toujours je rencontre des nouvelles têtes. C'est top. De que ce soit des graphistes ou des développeurs ou des marketeurs. Donc c'est trop cool. Après, j'aime bien aller dans des endroits de coworking comme là où on est à Sofa. J'aime bien aller au Voraz aussi, je crois que c'est dans le Vieux-Lyon. Non, c'est pas très loin. Il y a plein d'endroits cool à Lyon où tu peux rencontrer plein de gens chouettes. J'essaie de réfléchir. Moi, j'ai un QG qui s'appelle Le Labo. C'est mon café préféré que j'adore. Et là-bas, il y a toujours des gens vraiment sympas.
C'est où le Labo ?
Le Labo, c'est à côté de Guillotière.
Okay.
C'est à côté de l'université Lyon 2, près du bâtiment Citroën. Alors, c'est là où j'y vais parce qu'ils font du thé matcha qui est juste ouf. Et en plus, il y a des gens vraiment cool. J'aime bien aller dans les cafés, écouter les conversations ou même parler à d'autres gens comme ça. Ça me plaît bien. J'aime bien.
Même en étant plus introverti, du coup.
Même en étant introverti.
Tu trouves que c'est simple d'arriver à connecter
C'est pas facile, mais en fait, il faut se forcer un peu, je pense. Quand tu es introverti, il faut se dire, bon, allez, tu perds rien à aller parler à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va te dire ? Dégage. Ben non, ça va aller en général, tout va bien. Donc, il faut laisser passer l'appréhension et la peur que tu as au début et puis continuer après pour aller parler à cette personne. Je pense que faut se forcer un peu quand tu es introverti à faire ça. Mais la relation derrière est super cool, donc ça vaut la peine.
Cool. Bon, je crois qu'on est arrivé à... Voilà.
Oh, on est bien.
On a fait 1h10 de conversation. Ce qui est rigolo parce qu'à chaque fois, je sais pas toi comment ça se passe quand tu fais tes podcasts, et moi j'ai toujours le rebond des trois sujets de curiosité qu'on a utilisé.
Okay.
Et en général, on arrive toujours à peu près au même temps.
Donc, ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est un peu pareil.
Je me demande s'il n'y a pas une théorie sur la durée d'une... Tu sais, l'énergie qu'on parlait en fait sur une conversation continue.
Ouais.
Si au bout d'à peu près 1h, 1h10, ça commence pas à avoir un moment où il y a besoin de redescendre et de repartir sur autre chose.
Complètement. Je pense qu'au bout d'une heure, 1h, 1h30, c'est bien. Je trouve que c'est un bon tempo pour
faire... Il y a une logique d'attention là-dessus.
Ouais, une logique d'attention, ouais, complètement. Il faudrait qu'on regarde des études.
Ouais, on va regarder les études là-dessus.
J'y
partagerai la prochaine fois dans le podcast.
Okay.
Cool, pour finir, du coup, est-ce que tu as quelque chose à partager ? Je ne sais pas. Est-ce que tu organises un événement ? Est-ce que tu as un événement que tu as envie de partager, prochain qui arrive ? Est-ce que tu as un dernier nom de livre à partager ? Je ne sais pas. Quelque chose qui te vient comme ça.
Alors, quelque chose qui me vient comme ça. Je parle à un after-work qui est organisé par Talking to You. C'est une agence. Et c'est mardi prochain, donc si vous voulez me voir, discuter avec des gens sympas, c'est mardi prochain. Alors, je ne sais pas vraiment où c'est, je ne me souviens plus du nom, mais ça s'appelle Talking to You. C'est un afterwork de 19h à 21h. Et le deuxième truc qui est cool, c'est s'il y a bien un livre que vous devez lire en ce moment. Moi, j'adore ce livre, mais il s'appelle Sorcière. C'est un bouquin de Mona Chollet qui est vraiment génial quand on s'intéresse au féminisme en général. Il est vraiment cool. Je le conseille très fortement.
Parfait.
Voilà.
Eh ben merci pour tout ça, merci pour cette discussion.
Super.
Et puis à une prochaine fois.
Oui,
écoute,
carrément.
Pour d'autres discussions et d'autres aventures. Voilà. Allez,
plus.
Merci, salut. Et voilà, c'était encore une belle discussion. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec Alice. On est parti dans tous les sens, mais en même temps, on est resté quand même assez structuré. Vous en direz des nouvelles. En tout cas, c'est intéressant de voir justement toutes ces réflexions, je trouve, autour de l'information, en fait, de la capacité à pouvoir entendre de nouvelles choses et puis justement cette capacité à avoir une curiosité large dans un monde où on essaye un petit peu tout le temps de nous faire monter des choses qui sont censées nous plaire, mais des fois on a envie d'être aussi surpris par des choses qui ne nous plaisent pas. Donc ben voilà, moi je vais continuer avec Nouvelle Porte à essayer de vous proposer des personnes qui justement sont un peu dans des modèles qui peuvent être différents du vôtre et puis aussi différents du mien. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille creuser, que j'aille rencontrer peut-être directement en physique à Lyon des personnes que je connais pas et puis qu'on lance des discussions. L'autre fois j'ai eu l'idée de me dire tiens si j'allais à la gare le matin pour questionner quelqu'un qui est au Starbucks et qui est en train d'attendre pendant une petite demi-heure, une heure son train, et ben on pourrait discuter. Donc à voir, à explorer. Si vous avez des idées en tout cas pour apporter encore plus de diversité à la curiosité, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte. Et puis la prochaine porte arrive bientôt, ça sera avec un ami, Grégor. Donc là, on se rejoindra pas mal sur les modèles de pensée, mais on verra justement pour pouvoir raffiner tout ça sur d'autres épisodes. En attendant, écoutez, si vous avez passé un bon moment, ça serait vraiment top que vous mettiez 5 petites étoiles sur l'application par laquelle vous écoutez les podcasts. Non pas que j'ai une envie de gloire, mais plus simplement pouvoir mettre sur une table où tout le monde puisse accéder, parce que je me dis que les personnes que j'interviewe, je les trouve géniales. Ça serait super que du coup plus de gens puissent les entendre. Voilà, tout simplement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à envoyer des idées ou tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Bonne continuation. Salut, salut.